Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en cette journée. Journée un peu spéciale, m'a spécifié Sébastien Bonijol, un de nos confrères ici dans la radio, qui s'occupe des auditeurs, n'est-ce pas? Sébastien Bonijol m'a signalé donc que c'était la journée mondiale des gorilles, et notamment eh bien, les gorilles graueurs dans le parc de Kahuzi-Biega. C'est dans la région de Bukavu, en République démocratique du Congo, dans l'Est, où d'ailleurs RFI a contribué à la création d'une radio qui s'appelle Gorilla FM. C'est sur 90.3, si vous voulez l'écouter. Mais écoutez RFI d'abord et surtout Radio Foot. Nous parlerons aujourd'hui d'un lion chez les Blues. Édouard Mendy quitte la Bretagne pour la Grande-Bretagne et portera désormais le maillot des Blues. L'international sénégalais sera en concurrence avec le jeune gardien titulaire à Chelsea, Kepa, ou peut-être d'ailleurs va-t-il le remplacer. Une ascension éclair pour le néo-blues, déjà prêt, dit-il, pour d'autres nuits bleues, Night in Blue, puisqu'hier, Chelsea a largement gagné. Luis Suarez au rebond à l'Atlético Madrid, l'un des meilleurs buteurs du Barça dans les rangs d'un adversaire direct. Tiens, tiens, est-ce une chance pour le pistolero? Sera-t-il associé à son compère de la Selección de Uruguay, Edinson Cavani? Franck de Boer succède à Ronald Koeman sur le banc des Pays-Bas. Il a fait les beaux jours de l'Ajax, mais son parcours international s'est ensuite un peu compliqué. Est-ce le bon sélectionneur pour les Oranges? Question qui va directement, évidemment, à notre spécialiste, à Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie. C'est
ne répondez travers... pas tout de suite.
Non.
On a toutes les mises en pour
quoi
ça.
Quoi qu'il arrive, je ne serais pas d'accord avec lui.
Voilà.
Bon. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Merci d'être là aujourd'hui. Et puis présent aussi Hervé Penaud, notre ami de l'équipe.
Bonjour à tous. Cette journée, alors, je ne savais pas que c'était la journée des gorilles, mais ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'on apprendra à faire la grimace.
Non.
Vous allez
ça,
voir.
Ça, j'en suis bien sûr. On est pas mal de vieux singes ici d'ailleurs. Mais pas des gorilles forcément.
Et le lendemain de l'anniversaire de Bruce Springsteen, il ne faut pas l'oublier, 71 ans.
Là, c'est vrai, votre idole.
Ah,
mince,
absolument. Hein,
comment peut-on oublier ça? Alice Ménard est à la réalisation. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission Radio Foot. C'est parti.
Bonjour à tous, et je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que je vais quitter le Stade Rennais. Je tenais à remercier tout le club, tout le personnel, les joueurs, le staff et vous aussi les supporters. Vous avez été incroyables toute l'année et on a été récompensés avec cette Ligue des Champions. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous regarderai toujours et je vous dis à bientôt.
Hi Chelsea fans, can't wait to join you at Stamford Bridge. See you there.
C'est une belle histoire que celle d'Edouard Mendy, le gardien des Lions de la Teranga, finaliste de la dernière CAN en Égypte, portera à présent le maillot de Chelsea. Lui qui a signé son premier contrat professionnel il y a à peine 4 ans. Ce fut une ascension éclair pour ce natif de Normandie, passé par le HAC, hein, où il a été formé au Havre et qui avait trouvé comme premier club pro le Stade de Reims. C'était en 2016, il avait alors 24 ans. Ce Stade de Reims qui essaye de survivre en Ligue Europa après une aventure européenne qu'il a eue, mais il y a bien longtemps déjà, presque 60 ans. Et puis il aurait pu effectivement jouer la Ligue des Champions, comme il le disait, Edouard Mendy, avec Rennes. Cette fois, il part vers beaucoup plus grand quand même. Hervé Penaud, on se demande même s'il réalise.
Bah, et comment réaliser? Parce que là, c'est le destin quand même assourdissant d'un type bien. En plus, vraiment d'un super mec. Et d'ailleurs, Stéphane, l'entraîneur de Rennes, a dit aujourd'hui que c'était quelqu'un de super qui quittait le vestiaire et que c'était très dur non seulement de perdre la qualité sportive de l'homme, mais surtout aussi son impact humain et moral dans le groupe, auprès des jeunes notamment. Il était toujours très très proche des jeunes. Et alors, ce qu'il a réussi à faire, mais c'est quand on regarde son parcours, on se dit, mais comment est-ce possible même? Parce que souvent, vous avez des joueurs qui sont un petit peu délaissés de centre de formation, mais qui petit à petit franchissent des étapes. Mais lui, c'est même pas le cas, puisqu'à 24 ans, il n'était plus rien.
Et à un moment, il était à Cherbourg.
Il a été à Cherbourg, le National 2. Et oui, est descendu parce qu'ils avaient des problèmes financiers en DH. Un agent lui dit, oh, t'en fais pas, moi je vais te trouver un club en Angleterre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il refuse des clubs de National, de CFA 2, en pensant aller un jour en Angleterre. Il y est aujourd'hui, hein. Mais à cette époque, il ne voit rien revenir. Et il se dit, bah, je vais peut-être arrêter le métier. Il fait rien quasiment pendant un an. Il se dit, bah, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être être vendeur, parce qu'il pensait peut-être trouver un poste de vendeur. Et puis quelqu'un, finalement, lui dit, il le rattrape par la manche et lui dit, bah, je t'ai trouvé Marseille. Mais pas Marseille, l'OM. Pas, si, l'OM, mais pas le grand OM. L'OMB, la réserve.
Qui est jamais un cadeau, hein, la réserve de l'OM. Hein. C'est toujours
un peu fin. Et là-bas, il joue pas. Il joue quasiment pas. Il fait quoi, 8 matchs, 8 matchs là-bas.
Avec Brice Samba.
Donc, c'est un truc absolument incroyable. Et après, il a Reims. Et Reims, c'est quoi? Reims, c'est pour être remplaçant au départ. Donc, et puis après Reims, c'est la Ligue 2.
Mais par contre, à Reims, il a laissé une belle trace. Parce que là-bas, les gens l'adorent au stade Auguste
Delaunay. Mais magnifique trace, parce que c'est un type, déjà, c'est un gardien de très très haut niveau. Et puis surtout, très je classe. Vous dis, c'est un type bien. On le voit même à sa présentation, j'allais dire, ça, même si c'est de la pub, évidemment, mais on sent qu'il y a quelque chose. Ouais. Et puis alors, là, vous voyez Rennes, et puis d'un seul coup, Chelsea, bang, là, c'est vraiment la claque. Hein,
après, au niveau de l'âge, c'est bien, c'est parfait, c'est 28 ans. C'est ni trop tôt, ni trop tard. Ça tombe
bien. Oui, parce que les gardiens, effectivement, jouent tellement. Enfin, peuvent jouer longtemps.
Lui, il va pouvoir jouer longtemps, à mon avis. Vu qu'il a peu joué avant.
C'est un concours de circonstances dont il bénéficie, Naïmoniol.
Ah non, il n'y a pas de concours de circonstances. On peut. Sur un concours de circonstances, on peut être recruté par un club pro, mais par Chelsea, quand même, c'est qu'on a montré 2-3 trucs, surtout qu'il a été supervisé par Lampard, qu'il a été supervisé par Petr Cech.
Alors voilà, il a un prédécesseur.
Alors, Lichon, lui, c'est le lien entre la Bretagne et l'Angleterre.
Ça compte. Mais la belle histoire, c'est Petr Cech, qui était pendant longtemps gardien en Angleterre, on s'en souvient, mais qui était parti de Rennes
qui
à
était
Chelsea.
De Rennes, ouais, tout à fait, mais de toute façon, Rennes a toujours.
Et qui est dans l'encadrement à Chelsea.
Oui, mais de toute façon, Rennes a toujours été un club qui envoyait ses gardiens d'Angleterre, parce qu'après il y avait Isaacson qui avait été à Manchester City, donc il y a une traçabilité comme ça entre les gardiens de Rennes. Mais si vous prenez justement le physique de Mendy, on est quand même très proche de Petr Cech, on est quasiment à 2 mètres, c'est un gardien qui a une envergure
très
incroyable, beaucoup plus que Kepa.
97, c'est
joué. Beaucoup plus que Kepa, qui est 10-10, 12 cm en dessous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concours de circonstances. Reims, ça a été un promu, mais un promu qui, compte tenu de ses résultats, jouait quand même pas trop mal au football. La preuve, ils se maintiennent en Ligue 1, ils font 6e.
Et ils ont encore un bon gardien.
Ils sont en Ligue
Europa. Avant,
ils sont en Ligue Europa, donc c'est une équipe qui joue pas mal. Et puis Rennes, c'est le club. Rennes, c'est le club un peu sensation depuis 2 ans. Ils ont un jeune entraîneur, ce qu'on voit pas trop en France. Ils ont gagné la Coupe de France, ils ont battu Paris. Là, ils ont un champion du monde. Ils ont Nzonzi, ils ont failli faire Godin. Donc c'est le gardien de l'équipe un peu sensation. Donc il y a coup de projecteur sur Edouard Mendy, plus ses prestations qui sont de haut niveau. Aujourd'hui, il se retrouve à Chelsea. Alors la marche est très haute, beaucoup plus haute qu'en France. Il va avoir beau. On peut rater quelques matchs à Rennes, parce que mis à part en ce moment où ça joue la Coupe d'Europe, c'est globalement une équipe de Ligue 1 où on a un peu le temps d'apprivoiser la chose, machin. À Chelsea, il n'aura pas le temps, d'autant qu'il a le club a beaucoup recruté, très cher, donc il va falloir s'imposer très vite. Mais pour lui, compte tenu de ce qu'il monte depuis 2 ans, c'est amplement mérité.
Chérif Guémot.
Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Naïm. Alors on va préciser quand même, il y a une spécificité pour jouer en Angleterre. Ils adorent les très très grands gardiens. C'est pourquoi un type comme Loris, c'est 1m88. Alors que Edouard Mendy, c'est 1m98. Petr Cech, c'est un peu pareil. Voilà, c'est ça. Quand on arrive à 2 mètres, c'est parfait parce que.
C'est bon pour l'Angleterre.
Ils avaient De Gaulle qui faisait 2m2 à l'époque.
Van der Sar, ça doit faire pareil, hein, 98 autour de là. C'est super important. Mais c'est, chez les Anglais, c'est un critère. C'est le premier critère. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis du temps. Ils s'étaient intéressés à Loris, ils ont mis du temps pour le prendre. Et ensuite, il a pas joué tout de suite. Il a fait ses preuves champion du monde. Donc après, c'était bon. Il y a vraiment une importance de la taille. Ça veut dire quoi? Et là, je rejoins ce que dit Naïm. Ça veut dire qu'il va falloir être bon dans les jeux aériens, dans les duels, les coups de pied arrêtés. Et là, c'est sans pitié. Les attaquants vous rentrent dedans. Ils défoncent tous sur leur passage. Et là, faut se faire respecter. Deuxièmement, il y a la langue. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ce qu'on demande de ce gardien, c'est d'avoir évidemment, dans tous les pays, mais là, spécifiquement en Angleterre, comme il y a beaucoup de nationalités, et puis bon, faut bien maîtriser l'anglais. Il faut vraiment avoir un rayonnement sur sa surface et avoir vraiment des rapports
et hurler en anglais.
Thiago Silva, il parle français, Zuma, il parle français, Kanté, il parle français, Aspilicueta, il parle français. Il y a 3-4 francophones qui vont l'aider quand même à s'intégrer.
D'accord, mais sur on the pitch, comme ils disent, c'est en anglais. Tout le monde en anglais.
Je suis bien d'accord. Voilà. Après, il y a quand même un truc qu'il faut regarder cette année avec Chelsea, c'est qu'on a eu à Chelsea, sur les années précédentes, un peu des recrutements, parfois un peu flous, tu savais pas bien, tel mec arrivait, tu disais, ah bon, est-ce qu'il n'est pas vraiment le niveau, il y a déjà trois joueurs à son poste.
Et puis après, ils ont voilà. plus recruté.
Et puis après, il y a eu l'interdiction de recrutement. Si vous prenez quand même cette saison, il y a un truc qui est frappant avec Chelsea, c'est qu'ils ont recruté que des super joueurs à des postes bien précis, et surtout, Lampard a dit non à d'autres joueurs. C'est-à-dire que c'est vraiment ciblé. On a pris Werner. On n'a pas pris Werner parce qu'il y avait personne d'autre. On a pris Werner parce qu'on voulait Werner. On a pris Ziyech parce qu'on voulait Ziyech. Ils ont pris Thiago Silva. Ils ont pris Havertz. Il y a eu Chilwell. Et le fait qu'on se positionne sur Edouard Mendy, ça montre quand même, ça valorise tout le travail du garçon. C'est pas, on a pris un mec pas très cher et puis il nous en fallait un dans l'urgence parce que Kepa, ça va pas. Il y a pas grand monde. Tiens, on va prendre celui-là. Non. Lui, il a été choisi, scruté, ciblé. On parlait de Lampard, de Petr Cech. Il y a évidemment Lolichon qui fait le lien entre Chelsea et Rennes et qui a donné son aval. Donc, ça valorise aussi toute la performance de ce garçon.
Et je complète beaucoup de clubs anglais avaient commencé à s'intéresser à lui déjà à Reims et les demandes. Bon, après, c'est les clubs secondaires. C'est Aston Villa, il me semble, West Ham. Mais déjà, l'Angleterre s'intéresse à ce garçon.
En tout cas, c'est vrai que il arrive pour 22 ou 24 millions, on ne sait pas trop bien. Et ça rapportera quelques millions aussi au club de Reims, 3 en passant. Il est arrivé pour ce prix-là, pour être numéro 2 ou pour être numéro 1, Hervé, sachant on parlait de Kepa, qui est plus jeune que lui, qui a 25 ans, qui avait été acheté en plus 80 millions à Athletic Bilbao.
Kepa, quand il arrive, c'est le nouveau Derrea.
Exactement.
C'est la grande star.
Espagnol, la veine espagnole. Un peu comme on a eu la veine allemande pendant un moment. Mais simplement, Hervé, c'est peut-être une coïncidence, mais on a l'impression que c'est un but récent d'un certain Sadio Mané, autre Sénégalais, autre international Sénégalais, qui scelle un peu le sort de Kepa.
Pas vraiment, parce qu'il fait quelques temps déjà que Kepa, il est un peu sur la sellette, parce qu'il est sur des performances très moyennes, mais l'avantage de ce but-là, mine de rien, c'est qu'il arrive et on a la sensation qu'il va être titulaire. Alors qu'effectivement, il pouvait y avoir match, il pouvait y avoir une incertitude entre lui et Kepa.
C'était un but de 2-0, c'était pas un but.
C'est vrai. Mais comme c'était la énième bourde depuis quelque temps, parce que là, on sent vraiment que Kepa, il est loin de son meilleur niveau, puis loin de ce qu'on pouvait espérer de lui, parce que c'est vrai que ça faisait partie des gardiens
à un gros
potentiel à une époque. Donc aujourd'hui, il est pas là, il est pas bien. Et là, vous avez la chance, mais c'est peut-être le moment idéal pour lui d'arriver, d'être titulaire vite et surtout d'être bon, parce qu'en fait, tout ce joueur là-dessus, lui, c'est un jeune gardien de haut niveau, pas jeune par l'âge, mais jeune au haut niveau, il n'a que 2 ans de Ligue 1, c'est rien. C'est-à-dire que là, il va découvrir un championnat où ça va 14 fois plus vite, les impacts sont 10 fois plus importants, et il va falloir être prêt et précis dans tout ce qu'il va faire.
Et la personnalité, une fois de plus, le rayonnement sur sa surface par rapport. Mais même si Thiago Silva parle le français, il va falloir l'engueuler, Thiago Silva.
Mais même à Rennes, j'avais trouvé que l'année dernière, bizarrement, il n'avait pas fait une immense saison. Je trouvais de temps en temps, mais c'est normal parce qu'il découvre un nouveau club, nouvel environnement. Je m'étais dit tiens, j'attends encore un peu plus de lui parce que je crois beaucoup en son potentiel. Et puis si Rennes a eu ces résultats-là, il est quand même aussi une des raisons principales. Mais il n'empêche que là, il va falloir être bon tout de suite. Mais c'est super, challenge incroyable. Et puis on le sait, c'est super.
Naïm, Chelsea bon tout de suite, d'autant plus avec tout ce qu'ils ont dépensé Alors on peut même pas parler d'intersaison puisque ça a été vraiment raccourci, mais on va dire en tout cas pendant ce mercato, 250 millions à peu près d'euros. Dépenser. Alors hier soir, on a déjà vu un peu les effets parce qu'ils avaient perdu leur premier match à domicile face à Everton. Bon, ça c'était le premier match. Ensuite, ils sont bien rattrapés face à Southampton, je ne me trompe pas. Et là, on les retrouve. C'était hier. Alors en Carabao League Cup.
Carabao Cup. Donc la League Cup, oui, c'est ça. C'est le sponsor.
Je ne parle pas des sponsors en général. On s'en tient à la Coupe de la Ligue anglaise. Et surtout face à un club qui s'appelle Barnsley, qui est Championship, c'est-à-dire la deuxième division, qui est 20e. Et là, on a vu que ceux qui ont été achetés chèrement, et je pense aussi à Kaya Havertz, lui aussi, 80 millions, dit-on, qui a mis un triplé. Thiago Silva, dit-on, a mis de l'ordre tout de suite dans la défense.
Giroud a marqué. Abraham, qui a perdu sa place de titulaire, a marqué.
Il y a du monde en attaque.
Barclay, qui est plus titulaire, a marqué. Donc ça a été un match, l'opposition, vous l'avez souligné, évidemment. C'était pas grand-chose.
Voilà. 6-0,
Ça change de ce qu'ils ont l'habitude de prendre en première ligue, mais enfin, c'est quand même un match qui rassure. D'abord, c'est une victoire, vous êtes qualifié, c'est un match élimination directe.
Voilà.
Ça entretient la dynamique, ça concerne tout le monde, parce que dans des équipes comme ça, quand vous avez une dynamique qui s'enclenche, une victoire, un mec ou deux qui s'impose à des postes, vous avez quand même très vite vite fait de fidéliser un groupe et puis bah après c'est compliqué d'attraper le wagon. Là, tout le monde est concerné, Giroud, Havert, donc c'est une très belle soirée hier pour Chelsea, ça permet à ceux qui sont arrivés d'avoir du temps de jeu, à ceux qui ont déjà joué de s'intégrer un peu plus. Donc c'est très bien. Moi je pense bon et toi Mendy, il y a une période de quatorzaine à respecter, donc il va pas pouvoir jouer tout de suite. Mais dans la foulée, moi je pense qu'il va finir à terme par être essayé, peut-être s'imposer, mais ça commence quand même à prendre forme parce que à Chelsea, ils ont vraiment recruté pour une fois de manière très ciblée, déjà à des postes où il y avait vraiment besoin, c'est-à-dire derrière.
C'était un travail très précis.
C'est-à-dire derrière, parce que c'est bien d'avoir.
Chilwell, c'est très avisé.
Chilwell, c'est très fort,
très avisé.
Et alors justement, Thiago Silva, lui aussi, il est parti là-bas pour se refaire une santé après ses années, ses 8 ans, au PSG. Et c'est un bon choix, en dépit de ce qu'on critiquait ici à Paris, c'est-à-dire l'âge. Et écoutons-le, Thiago Silva.
Me sinto muito bem ainda physiquement.
Je me sens encore très bien physiquement. Je suis persuadé que l'âge est surtout un renseignement dans les pièces d'identité. Sur le plan physique, je me sens très jeune et j'ai depuis toujours une hygiène de vie qui me permet de jouer au football. Je suis très reconnaissant envers tout ce que Paris a représenté dans ma vie et dans celle de ma famille. Mais maintenant, je démarre un nouveau projet dans un nouveau club et je suis très motivé par ces défis. Et j'ai bien envie d'aider tous ces joueurs de Chelsea qui sont très jeunes, mais qui ont un niveau incroyable.
Ils sont incroyables, ces joueurs de foot. Hier, on entendait Ibrahimovic nous dire qu'il était un Benjamin Button, qu'il était chaque fois plus jeune à chaque match. Il a 36 ans.
Avec le Covid aujourd'hui.
Thiago Silva.
Oui, mais vous avez vu son tweet amusant.
Exceptionnel.
Le tweet d'Ibrahimovic, c'est dire que le Covid s'en est pris à moi, il a mal choisi.
Mauvaise idée. Bad idea.
Voilà. Très mauvaise idée.
Non, mais pour en revenir à Thiago Silva, comme disait Naïm.
36 ans.
C'est la Première Ligue, et la Première Ligue, il y a toutes sortes d'attaquants. Les rapides, les costauds, les petits espaces, les grands espaces, les duels aériens.
C'est pas comme partout.
Non, mais il y a 38 journées à être au taquet, et pareil, mais lui aussi, il va falloir qu'il fasse ses preuves très très vite.
C'est là où on va voir toute la différence avec le Paris Saint-Germain, c'est la culture du foot anglais, la culture de la Première Ligue, les managers qui savent s'imposer, qui n'ont pas peur de se dire « Ah bah merde, c'est une star en face de moi, il gagne tant de millions, il fait telle pub, je vais peut-être pas lui dire ça parce qu'après ça a mal se passer. » En Angleterre, là-bas, ça n'existe pas. Et le fait de baigner dans cet univers, ça va le transcender. Tu vas voir, dans les gros matchs, parce que ce qu'on pointait du doigt sur Thiago Silva à Paris, c'était les gros matchs finalement, surtout de ceux de Ligue des Champions, là tu vas voir qu'avec Chelsea, il va être bon.
En tout cas, bravo à Edouard Mendy pour ce saut chaque fois plus...
Et le Sénégal, en plus, c'est très très important pour l'équipe du Sénégal, parce que si vous avez autant de joueurs dans des grands clubs, au bout d'un moment, ça va donner un impact supplémentaire à cette équipe, et puis d'une finale de Cannes, et bien pourquoi pas, la prochaine fois, une victoire.
On demande à Barrez avec l'Algérie, comment il a boosté l'équipe.
Exactement.
En tout cas, Chelsea jouera dès samedi face à West Bromwich Albion. On continue, on change un peu de pays. Et nous sommes en Espagne. Il s'en va, mais il laisse son empreinte dans l'histoire du Barça. L'Uruguayen Luis Suarez est devenu le troisième meilleur buteur du FC Barcelone en 6 saisons avec 198 buts inscrits. Ils lui ont même pas laissé inscrire 200 buts à Luis Suarez, le pistolero qui a fait ses adieux au club hier. Des adieux embués de larmes.
Écoutez, ces adieux sont difficiles pour moi. À mon arrivée, je n'imaginais pas gagner tant de trophées, inscrire tant de buts avec ce maillot et jouer avec des joueurs incroyables, en particulier avec le meilleur joueur de l'histoire.
Naïm Moniol, c'est pas exagéré de dire qu'il va rester dans l'histoire du Barça.
Bah non, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. 13 trophées en 6 ans, c'est... Non, c'est un des meilleurs numéro 9 du foot moderne sur les 10-20 dernières années qu'on a eu.
C'est ce qu'il dit. J'ai eu la chance de jouer avec le meilleur joueur du monde.
Voilà, il a eu la chance de côtoyer Messi. Il a eu la chance de faire partie de ce qu'on a appelé la MSN.
Exactement.
Il a gagné la Ligue des Champions.
La MSN.
Mais Messi, Neymar, Suarez. Donc non, c'est évidemment un immense joueur qui quitte Barcelone.
Qui gagne en 2015 grâce à ça.
Avec Luis Enrique comme entraîneur. Donc non, c'est évidemment un cadre de l'équipe, une star, une légende et tant pis pour le FC Barcelone, parce que même si évidemment avec l'âge et les blessures, il est amené à être moins performant, des numéros 9 comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas en tout cas à Barcelone, mais si c'est pas vraiment un 9, donc il n'y en a pas de ce niveau-là. Par contre, bonne pioche pour l'Atlético, moi je pense que c'est une très très bon recrutement.
Alors il va jouer avec qui alors, parce que
Restons encore sur Luis Suarez. Moi j'ai peut-être une question, on se souvient de son arrivée en 2014, d'ailleurs il en parle dans son petit discours, hier il parlait, c'était avec Bartomeu lors des adieux officiels on va dire, il dit ce club m'a fait confiance en 2014 malgré mon erreur, alors on se souvient tous de cette erreur, à la Coupe du Monde voilà, en 2014 face à l'Italie lorsqu'il mort Chiellini. D'ailleurs, c'était pas la première fois, il en était troisième récidive.
Oh là là.
Il avait mordu un certain Bakali du PSV Eindhoven, c'est là qu'il avait commencé.
Il était très bon celui-là, c'est pour ça qu'il s'est dit tiens, je vais peut-être réessayer sur d'autres.
Du coup, après Ivanovic, lorsqu'il jouait à Liverpool.
Une morsure par championnat.
Une morsure
par bien, club. Justement, c'est pour ça que je voulais vous poser la question, Chérif Guémot. Eh bien, il n'a jamais mordu en Espagne en 6 ans et il n'a jamais eu un seul carton rouge. On a vérifié tout à l'heure, incroyable. Zéro carton rouge lorsqu'il a joué avec le Barça.
Bah, il a évolué.
Une transformation.
Parce qu'ils l'ont pas
Pas j'avais... besoin. Mais
alors, il y avait surtout, dans son contrat.
Surtout, pas besoin d'être agressif puisque c'est une équipe qui s'imposait naturellement. C'est pas une équipe à conflit. Il y a pas de killer, il y a pas de méchant.
Il a quand même toujours été agressif sur un terrain.
Quand t'es dans une équipe comme ça, que t'as un niveau comme ça, tu prends des ch'tards et à un moment donné, tu t'énerves quand même.
Surtout lui, c'est quelqu'un qui va au combat. Combien de pénalty il a récupéré justement même sur des fois des petites simulations.
Messi ne rend jamais les coups. De temps en temps, il s'énerve un peu, mais il rend jamais les coups.
Oui, mais Messi, il est moins bagarreur, je pense.
Oui, non, mais.
Il a moins d'antécédents.
Le Barça, c'est on prend des coups, des insultes parce que bon, on les aime pas quand ils dominent et tout. Ils répondent par des buts. Et c'est ça en fait, thérapie. C'est alors, rends pas les coups, mais je mets des.
Suarez quand même, il a rendu souvent. Hein, attendez, ouais, mais, Suarez, on l'a vu souvent.
Il a souvent donné le premier.
C'est pas Hervé, il a quand même suivi une thérapie lorsqu'il est arrivé au club de Barcelone. Et le club de Barcelone lui avait en plus mis dans son contrat une clause qui lui interdisait de mordre.
Oui, voilà.
Donc il lui avait quand même appelé l'attention en lui disant faut quand même peut-être faire attention.
Il a fait un travail sur lui-même tout simplement. A évolué. Alors il n'a pas changé de tempérament. On change jamais. Simplement on évolue et son évolution ça a été d'être un peu plus en maîtrise de lui-même. Mais c'est un joueur hors norme ce qu'il a réussi à faire là-bas incroyable. À Barcelone. On se souvient plus tellement parce qu'on voit la dernière année ou les deux dernières années où il a accumulé quelques blessures. Il était un peu moins présent dans les rencontres. Mais sinon ce qu'il a fait. Sa puissance physique.
Je vais même aller plus loin. Hervé, il s'est imposé partout, Suarez. Mm-hmm. Il s'est imposé à l'Ajax, il s'est imposé à Liverpool, il s'est imposé à Barcelone, qui sont, alors évidemment, trois clubs différents, mais c'est trois styles de foot différents, c'est trois championnats différents. Tu sais, t'as des attaquants qui vont s'imposer dans un club parce qu'ils sont, c'est the right man at the right place, il est bien avec l'entraîneur, il est bien
donc
avec le gars à
bon
côté
joueur
de lui.
Au bon endroit.
Voilà, avec mon accent picard. et donc voilà. Mais c'est quand même finalement assez rare d'avoir un attaquant, un joueur qui est bon pendant 10-12 ans sur 3-4 clubs différents. Lui, c'est le cas. Quand je dis que c'est un des meilleurs attaquants des 10-20 dernières années, c'est pas exagéré. Ça a été un des plus beaux neufs. Et je pense qu'à une époque, si vous n'aviez pas été à la pleine époque Messi-Ronaldo, si vous aviez été dans une autre génération, il aurait été Ballon d'Or parce qu'on n'a pas beaucoup vu de gâchette comme celle-là.
Gâchette, oui. Effectivement, pour lui, le pistolero. Hein. Une question quand même, Hervé, par rapport à ça. Comment comprendre que le Barça le laisse filer à l'Atlético, qui est quand même, on le voit tous les ans, c'est l'adversaire direct, c'est les trois équipes qui depuis plusieurs saisons se disputent les trois premières places.
Ah ben, je suis assez étonné pour tout vous dire. Alors soit il pense qu'il est vraiment
en plus,
cramé
c'est
bouilli,
pour rien, hein, 8 millions d'euros. Hein.
Il pense qu'il est cramé bouilli et qu'il leur fera pas trop de mal. Sinon vous le donnez quand même à un adversaire. En plus avec Simeone il est capable de vous relancer un joueur comme ça. Parce que là ça va être la Grinta. Alors peut-être qu'il va mordre là-bas. Surtout s'ils lui mettent pas dans son contrat. Parce que là, je pense qu'il va repartir sur un début de nouveau cycle, hein, parce qu'il va pas non plus aller jusqu'à 45 ans, mais simplement pour montrer qu'il avait encore sa place à Barcelone. Mais du côté barcelonais, je comprends aussi l'idée, se dire, on sent qu'il y a quelque chose qui allait plus dans cette équipe, il faut peut-être se séparer à un moment de certains joueurs, tout en gardant Messi.
Alors Alejandro Valente a une explication aussi, c'est que apparemment la direction du club voulait séparer Messi et Suarez.
Voilà, c'est ça, c'est
et donc, même s'ils resteront voisins, même si l'un est parrain des enfants de l'autre, eh bien, il y aura quand même une séparation, en tout cas dans le vestiaire. Mais justement, avec qui jouera-t-il à l'Atlético Eh bien, David Finzel s'est amusé à émettre une hypothèse.
del viento, centro por Suárez, está gol.
Busca el área, el centro, puede venir Suárez.
¡Gol! El toque va para acabar y va el matador. ¡Gol! ¡Gol!
Et voilà, parce qu'on a un pistolero face à un matador, on a quelqu'un qui tire la gâchette facile et l'autre eh bien qui élimine. Alors cet Atlético, ils ont quand même aussi là au milieu un autre bad boy d'ailleurs, il y a un certain Diego Costa. Comment il va faire Diego Simeone? Est-ce qu'il peut être tenté de prendre Cavani? On connaît leur énorme complicité au sein de l'équipe nationale.
Joao Félix, les copains, attention.
C'est ce que je viens de dire, Félix aussi, donc Carrasco aussi, Carrasco.
Ouais,
son côté, ça fait beaucoup d'attaquants. Complémentaire.
Parce que Cavani, il paraît que les discussions ne sont pas terminées, mais
c'est sûr que Diego Costa reste, attention.
C'est ça, donc on va attendre. On va attendre un peu le mercato, la fin du mercato, c'est ça, c'est le 5 octobre. Et puis après.
Mais qu'est-ce qui serait la bonne option pour Diego Simeone?
Suarez-Félix.
Suarez-Félix.
Parce que Diego
Costa.
Donc
il n'y a pas Diego Costa, ils ne sont pas complémentaires.
Non, parce que Diego Costa, d'abord, il reste sur une mauvaise saison, ça ne marchait pas avec Morata. Lui aussi, il commence à prendre de l'âge et à se blesser assez souvent.
Voilà.
Je pense qu'il a un peu moins la niaque, donc de toute façon, il ne partait pas pour être titulaire. L'idée, c'était de trouver un œuf, justement, pour mettre avec Félix. Donc l'idée, ça va être. Le projet, l'avenir de l'Atlético, c'est pas Suarez, c'est Joao Félix. C'est sur lui que vous avez mis beaucoup d'argent, c'est sur lui qu'il faut parier. Par contre, mettre un Suarez à côté. Pour l'encadrer, pour faire entre guillemets le sale boulot, justement les coups, le combat, les courses, même le vice, et puis permettre à l'autre de jouer au ballon, parce que c'est quand même ce qu'il sait faire de mieux. Oui, moi je pense qu'on partirait plus là-dessus. Parce qu'en plus avec Suarez, il y aura pas le souci de faut le faire courir, il faut le faire rentrer dans un moule où faut combattre. Il fait ça depuis toujours. Il y a pas d'intégration avec ce gars-là. Il sait le faire. Donc c'est un gain de temps. Donc non, moi je pense qu'il part pour être titulaire avec Joao Félix.
Après, il y a un groupe élargi. Il y aura sûrement, ça va tourner aussi devant. Si Diego Costa reste, il va servir. Après, quand Suarez arrive à l'Atlético, est-ce qu'il sera titulaire à part entière dès qu'il arrive? Ou alors il rentre dans la boucle, on attend un peu. Faut voir aussi.
Je serais surpris quand même que Cavani y aille, parce que Cavani, il voulait 10 millions d'euros.
J'ai des doutes.
Et ça me paraît beaucoup. Et l'Atlético a pas d'argent.
Qu'ils ont encore négocié lundi dernier.
Apparemment, oui, c'est vrai.
Oui, parce que Cavani, c'est.
Cavani, c'est 10 millions. C'est ce qu'il voulait. Alors, il va devoir revoir peut-être ses prétentions à la baisse.
Ça fait 3 mois qu'il attend, depuis qu'il a quitté Paris le 19 mars.
D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi il n'est pas resté à Paris 2 mois de plus. C'est quand même un mystère absolu pour moi.
Après, ça fait 12 ans.
Je pensais simplement qu'il avait déjà prévu la suite, tout simplement. Il voulait pas, parce que c'est vrai que ça peut être dangereux.
On avait
vous blessez.
C'est pour ça.
Exactement.
Justement.
Vous blessez, donc effectivement, dans ces cas-là, je peux comprendre qu'ils disent, je prends aucun risque, et après j'ai un contrat de 3 ans qui m'attend. Mais là, il a rien eu. Donc il pouvait rester 2 mois de plus, gagner peut-être une Ligue des Champions, parce qu'avec lui, ça aurait peut-être été le facteur X, supplémentaire. Et puis il a attendu, mais l'avantage qu'il a, faut pas l'oublier, c'est que lui, il est libre de tout. Lui, il fait pas partie des 5 octobre, 10 octobre, il peut revenir en mars, en avril. Maintenant, il va falloir qu'il trouve un club.
Après, c'est toujours Cavani Suarez, c'est un peu le même registre aussi. Donc les
associés, puis là, il n'y a pas de problème d'entente puisqu'ils jouent ensemble en Uruguay. Après, l'idée, c'est quand même Cavani, c'est de le faire jouer à son poste préférentiel.
Dans l'axe. Et Suarez, on le fait où?
Dans l'axe, il y a Suarez. Ah, et voilà. Joao Félix, c'est pas un type que tu mets sur un côté, que ce soit dans neuf ou même en soutien du neuf, c'est pas un type que tu mets sur un côté. Donc tu auras encombrement. Donc moi, je serais un peu de l'avis d'Hervé, je serais surpris de voir Cavani aller là-bas.
Et Cavani, tu ne feras pas jouer sur le côté.
Oui, puis t'as quelques clubs en Italie quand même.
Je crois qu'il en a assez.
Non, parce que c'est ce qu'il a fait avec. Il l'a fait pour Forlan, dans l'équipe d'Uruguay. Se mettre sur le côté, se battre pour les autres et tout. Et là, maintenant, c'est en fin de carrière, le mec qui va jouer à son poste.
Surtout que quand il y avait l'histoire avec Ibrahimovic à Paris, c'était un faux débat. Parce que si vous regardiez comment les deux jouaient, Ibrahimovic, il dézonnait, l'autre, il rentrait dans l'axe.
Moi, ça m'a fait
surtout Suarez, il est dans l'axe.
Surtout la dernière année, où là, il y avait une forme de 4-4-2.
En équipe nationale, ils s'entendaient bien.
Bien sûr.
Avec l'équipe d'Uruguay.
Cavani, quand vous lui donnez le ballon, vous entendez bien avec lui.
Mais à un moment, on parlait de Benfica pour lui aussi. Ça s'est pas fait. Finalement, il est très demandeur.
Il est très gourmand aussi.
À 10 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup de
clubs. Mais 200 buts marqués sous le maillot parisien.
Il est arrivé
aux 200, lui.
En attendant, il fait de la danse.
Exactement.
Pour se maintenir.
C'est bien.
Il a quitté le PSG donc le 19 mars dernier, on le disait, durant la pandémie. Par contre, celui qui est toujours là, enfin en ce moment, c'est Angel Di Maria. mais il a sans doute passé hier une bien mauvaise journée avec déjà en premier, alors c'était cette sanction infligée par la commission de discipline de l'AFP pour avoir craché sur son adversaire, le Marseillais Alvaro González. Di Maria est suspendu 4 matchs.
Vanega, Di Maria, Di Maria, Di Maria. Argentino, argentino, como te quiero, cabezón.
S'est fait mettre au piquet. Et oui, au coin, comme à l'école, au piquet.
Voilà, il est puni, Angel Di Maria. Alors non pas pour ce magnifique but qu'il avait marqué contre l'équipe de France.
S'il avait joué la finale 2014 contre l'Allemagne. Ah là là, Di Maria.
Les Argentins seraient champions du monde.
Je pense.
Alors tiens, est-ce que c'est une lourde sanction pour d'abord ces 4 matchs, Hervé? Il aurait pu en écoper de 6, il en a eu que 4.
Alors il faut dire, c'est un règlement qui est totalement incompréhensible. Parce qu'on nous explique, qu'en fait, le barème minimum, c'est 6 matchs. Mais alors il y a des accommodements avec la réalité. C'est-à-dire que si le contexte, peut-être c'est un peu moins, et puis si c'est plus violent, ça peut être plus. Donc au final, c'est-à-dire autant rien dire. Donc, on ne peut pas dire que c'est 6 matchs, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Il a eu, à mon avis, le minimum qu'il pouvait avoir.
Non,
apparemment, mais il s'est bien défendu. Visiblement, ils ont tenu compte du fait qu'Alvaro avait été, disons, légèrement énervé durant tout le match, même s'il n'y a aucun rapport, effectivement.
Aucun
mais il n'empêche que le contexte a joué en sa faveur et il a eu 4 matchs. Mais il s'en tire plutôt bien.
Comme il n'est pas souvent sanctionné, on l'a mis que 4. Mais non, le tarif, c'est 6 matchs et point à la ligne.
Au-delà du crachat, t'es quand même en période de Covid. Le fait qu'il y ait rien que ça n'augmente pas, n'alourdisse pas sa sanction, je trouve ça assez fou. 4 matchs, c'est rien. C'est franchement pour
Je trouve que ça aurait été dur parce qu'il y a le Covid. Parce que alors là, il faut qu'il pense au moment où il le vête. Et en fait, on est en période de pandémie. Là, c'est un peu compliqué.
D'autant plus que... de penser qu'on est en période de Covid, ou que ça tous les jours.
Oui, mais d'autant plus que lui, pour le coup, il est tranquille. Parce que lui, il peut pas l'avoir.
Son masque.
Et lui, pour le coup, il est tranquille puisqqu'il l'a eu, je crois. Si je ne m'abuse. Oui, il n'y a même pas de risque. Il ne peut pas le donner puisque de toute façon, il l'a déjà eu.
En tout cas, c'est dur pour le PSG.
Il n'a mis que 4 matchs.
C'est possible.
Tu vois, encore du confinement, 6 matchs.
Ça fait un total de 14 matchs de suspension dans l'effectif pour le Paris Saint-Germain.
Ils sont pas mal.
À la suite de ce fameux match perdu face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L'autre mauvaise nouvelle de la journée, c'était justement celle qui le prive de sélection. Di Maria n'est pas sur la liste de Lionel Scaloni. Il a pourtant disputé déjà 3 Coupes du Monde, plusieurs Copa América, la médaille d'or au JO de Pékin. Écarté donc des matchs, c'est des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, c'est contre l'Équateur et la Bolivie.
Bolivie, il faut monter.
Alors, il s'est demandé publiquement, est-ce que je suis trop vieux? Et qu'est-ce que vous diriez, vous, cher Yves Guémour? Pourquoi il n'est pas rappelé?
Déjà, il fait une Coupe du Monde correcte. Pas extraordinaire, mais correcte.
Mais il joue pas le match décisif. vous parlez en 2018.
Et après, peut-être que là aussi, on veut tourner une page. Il y a les nouveaux qui arrivent. Lautaro.
Rajeunissement d'effectifs, c'est
peut-être,
ça?
En attaque, je parle en attaque. Mm-hmm. Donc, il veut peut-être tenter autre chose. Mais après, d'après moi... on va le garder en réserve de la République. Je pense pas que il se soit définitivement écarté de
la sélection. Ça fait quand même un qu'il y va plus. Hein. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an qu'il y va plus. Non, mais Scaloni, on avait marre des sénateurs. En Argentine, comme dans beaucoup de sélections, Joachim Löw a fait pareil avec Müller, avec Boateng et ainsi de suite. Il a fait partie de ceux qui ont été punis pour la dernière Copa América. Surtout qu'en plus, à son poste, si vous regardez bien, il y a personne qui s'est imposé. Il tâtonne un peu. Un coup, il met Dybala. Un coup, il met Ocampos. Après, il met González. Après, il met le petit Brighton, Alexis McAllister, qui est argentin, curieusement, s'appelant McAllister. Bon. Donc, il n'y a jamais personne qui s'est vraiment imposé à son poste.
Qui s'occupe des amendes, à mon avis.
Voilà. Et puis, non, mais surtout que si tu prends ses prestations avec le PSG, la sélection, il y va tous les jours. Il est très, très bon avec le PSG, Di Maria. Donc, ça se justifie pas par ses prestations. Donc, il y a certainement un côté humain. Il y a certainement un contexte, puis un côté humain. Parce que Scaloni, attention, il est spécial aussi, hein. Il a pas, il est venu pour tourner une page, pour insuffler un nouveau souffle, machin.
On n'était pas sûr qu'il resterait, d'ailleurs.
Oui, et puis, il tape un peu sur les les anciens, quoi.
À d'autres jours.
Oui, mais parce que les résultats de l'Argentine n'ont pas été bons, tout simplement. C'est qu'à un moment, ils se sont dit, bah, comment on va faire pour relancer cette équipe-là? C'est l'histoire low, effectivement.
Exactement.
C'est exactement ça.
On pense à Müller.
C'est Müller. Müller qui est très, très bon avec le Bayern. Et puis, il a dit, non, c'est passé. On est passé à autre chose maintenant.
Il faut passer à autre chose.
Il faut passer à autre chose.
En Allemagne.
Mais oui, tout à fait. Et puis là, ça fonctionne pour les Allemands.
Il reste une nouvelle génération qui arrive.
De toute façon, seuls les résultats lui donneront raison ou tort. S'il se plante, on dira, bah non, c'était un mauvais choix. Mais ce qu'il montre en tout cas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a encore soif et faim de football, Di Maria. Donc, moi je suis un peu d'accord, on sait jamais, vous savez, ce type de joueur, peut-être qu'à un moment on pourra refaire appel à lui, même si attention, aujourd'hui s'il y a des super résultats, je pense qu'il y a peu de chances d'en revenir.
Leur dernière défaite, c'est la Copa América.
C'est ça, c'est ça.
C'était en finale, encore une fois. Ce qui est étonnant dans cette éliminatoire, dans ces éliminatoires où les grands joueurs se bousculent, c'est vu le contexte, parce que même la FIFPro, qui est le syndicat international des joueurs, s'est un peu inquiétée en disant mais ces joueurs, on les envoie là-bas dans un contexte sanitaire délicat, parce que la pandémie, alors ça redémarre énormément en Europe, mais c'était pas encore tout à fait terminé du côté de l'Amérique latine. Et on envoie Neymar, on envoie Messi, on envoie les grands joueurs.
C'est une palette fouille pour le foot 2020-2021.
Confiance dans les dirigeants, confiance dans les pays.
Dans les tests, dans les...
Oui, parce qu'à un moment, sinon on fait plus rien. Évidemment, alors on l'a vu, les équipes par exemple africaines font toutes leurs matchs en Europe, quasiment. Alors c'est vrai qu'il y a quelques matchs Maroc, Libye, etc., Tunisie, etc. Mais la plupart des matchs auront lieu donc en Europe, un peu partout, parce que c'était compliqué de faire venir les joueurs. Après, les clubs voulaient pas non plus spécialement, parce qu'ils savaient pas. Après, il y avait parfois des quinzaines pour revenir dans certains clubs, ça aurait été très compliqué pour certains joueurs. Donc ils ont géré ça de cette manière-là. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais à un moment, il faut bien vivre. Il y a du football partout. En Amérique du Sud, je comprends la FIFPro qui s'inquiète. Enfin, j'espère quand même que les pays vont prendre leurs dispositions. Tout sera fait pour que tout se passe normalement. C'est que c'est le cas ici, ce sera le cas là-bas. Et puis voilà.
Il y a un dispositif à mettre en place.
Surtout que t'as des joueurs qui ne bougent pas de la France, qui sont dans des champs, dans leurs équipes, qui ne sont pas internationaux, qui l'attrapent aussi en France,
évidemment,
ou dans les régions. Donc non, là c'est faux.
Et puis ne pas oublier non plus que ce sont des sportifs de haut niveau. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des cas de joueurs. Je pense à Dybala ou Samba par exemple. Le joueur de Montpellier là qui a été vraiment touché par le virus, mais la plupart du temps les joueurs ils voient même pas ça venir, ils s'en rendent même pas compte, et puis ça se termine.
Je corrigerai en disant que la finale de la dernière Copa América, là, cette fois-ci, c'était pas l'Argentine.
C'était en demi.
Exactement. En demi, ils avaient été éliminés par le Pérou.
Par le Brésil.
1-0. 1-0. Et la finale était Brésil-Pérou, effectivement. Et c'est pour ça que Di Maria ne risquait pas d'être en finale de la dernière Copa América. Mais ils en ont disputé et perdu pas mal, malheureusement pour eux. On continue et on termine. On va du côté des Pays-Bas.
Attention! Vas-y, Francky, c'est bon. Nouvelle génération.
J'ai découvert au début.
Hervé, il serait mis à danser là dans le studio.
Ah ben non, Francky Vincent, je l'ai découvert lors de mon premier voyage en Afrique noire, au Gabon. Voilà, pour vous dire. Oui, Francky Vincent, début des années 90.
Eh ben, Francky Vincent, il chante les louanges de Francky de Bourg.
Peut-être.
En tout cas, Ronald Koeman parti dans la précipitation au cours de l'été vers le Barça. Le banc des Pays-Bas était donc vide, il fallait le remplir. Alors après un intérimaire assez rapide, et c'était Dwight Lowe, comment on dit ?
Oh, c'est dur à prononcer.
Bon, l'eau de Vegas, ou je ne sais pas.
De toute façon, il n'existe plus. Donc on peut,
c'est un nom néerlandais, c'est toujours un peu compliqué pour nous. Voilà, exactement. En tout cas, c'est donc Franck de Boer qui a été désigné hier pour mener les Oranges à la prochaine Coupe du Monde, donc celle de 2022. Est-ce une arrivée logique, selon vous, Sherif Guémour, pour cet homme, je le rappelle, 50 ans, grand nom de l'équipe nationale, de l'équipe des Pays-Bas. Il était défenseur des Oranges entre 90 et 2004.
Alors, il avait été pressenti. Il y a son nom qui avait circulé. Comme à une époque, on a oublié, son nom avait circulé du côté de Liverpool, ça s'est pas fait. L'expérience d'entraîneur, c'est...
On va y venir, mais cas sur le banc, parce que on voit de plus en plus ces anciens grands joueurs qui deviennent sélectionneurs.
Alors il y a forcément la proximité Ajax. Il reste quand même un bon contingent d'Ajacides, comme on dit, de joueurs de l'Ajax dans l'équipe des Pays-Bas. Donc on sait parler football. Il y a une façon de jouer, il y a une identité de jeu qui est commune à l'entraîneur et aux joueurs. Après, ça se complique un peu, c'est qu'on lui met quand même la pression. Il y a l'Euro et la Coupe du Monde, donc visiblement, ce que dit la Fédé, c'est pas de gagner la Coupe du Monde 2022, mais pas loin.
Mais, donc, mais c'était, ouais. C'est une bonne génération quand même, et en plus, on les avait vus finalistes alors d'une compétition qui est un peu, mais c'est
non, les trop jeunes. La nouvelle génération.
Ligue des Nations, exactement.
La nouvelle génération, elle est jeune et elle manque d'expérience. Je vais vous donner un exemple.
De Jong et de Ligt, voilà. Par exemple.
Virgil van Dijk, c'est à peu près 35 sélections à 29 ans. Les 35 sélections, Mbappé, il les a déjà à 21 ans. Il faut bien comprendre que c'est une génération... Alors, à part Van Dijk qui a gagné la Ligue des Champions, c'est
mais
une équipe
France
jeune.
La France a joué plus de matchs aussi.
Oui,
ils font des compétitions internationales que les Pays-Bas ne font pas.
Parce que les Pays-Bas, ils ont raté les rendez-vous internationaux.
Les deux derniers.
Mmh. Et donc, ouais, y a un trou dans le CV quand même. Il y a un trou dans le CV. Il y a une équipe qui arrive, qui est en train de monter.
Et que Koeman avait bien modelé avec
absolument,
Depay. Avec
absolument. Mais on a vu les limites. Vous avez tous vu, je ne sais pas, le match Pays-Bas-Italie. Mmh. Les Pays-Bas se sont fait balader quand même. Mmh. Donc, ce n'est pas une équipe qui est encore bien au point. Elle monte, elle progresse. Et le gros du boulot de Franck Debourg, c'est de leur faire passer un cap supérieur. Parce qu'on les attend à l'Euro, on les attend à la Coupe du Monde. Donc, et il va falloir aller assez vite.
Alors, le problème peut-être où les doutes qu'on peut avoir autour de Franck Debourg, mais c'est sûr que ce n'est pas le même travail entre sélectionneur et entraîneur, eh bien, c'est que lorsqu'il a été entraîneur, il est passé. Alors, il ramène l'Ajax effectivement sur le devant de la scène, 4 fois champion des Pays-Bas. Voilà. Mais ensuite, il est parti l'Inter Milan. Voilà. Ça a duré 12 semaines. Il est parti à Crystal Palace en première ligue. Ça a duré 10 semaines. Ouais. Et écoutons, alors quelqu'un qui aime bien soigner son prochain, il s'agit de José Mourinho, de Franck Debourg.
J'ai lu une déclaration du pire entraîneur de l'histoire de la première ligue, Franck Debourg. 7 matchs, 7 défaites, aucun but marqué. Quand il disait qu'il n'était pas bon pour Rashford d'avoir un entraîneur comme moi, car la chose la plus importante à mes yeux est de gagner. Mais s'il était entraîné par Franck, il apprendrait à perdre, car il a perdu toutes ses rencontres.
Alors, cette déclaration, parce que il était encore avec Rashford, c'est-à-dire il était encore à Manchester United. Mais bon, c'est du Mourinho dans le texte.
Je vais répondre à la question que vous avez posée à Chérif. Est-ce que c'est logique? Non. En fait, Franck Debourg a été un immense joueur. On n'est pas en train de remettre en cause son passé de joueur. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est lui particulièrement, puisque vous venez de le souligner, son parcours d'entraîneur de club est pas bon, mis à part ce qu'il a fait avec l'Ajax, mais dans un championnat un peu plus mineur. Je pense que comme dans beaucoup de sélections, dans beaucoup de pays, c'est un jeu de relations, de t'es copain avec le mec de la DTN, ou t'as été l'adjoint d'eux, ou t'es en relation avec machin, ce qui va te permettre
mais
de prendre le poste.
Mais ça en impose sur un banc quand on est un ancien grand joueur.
Oui, mais quand on a un ancien grand joueur qui a gagné, quand on a un ancien grand joueur qui a craché l'Inter, qui a craché Crystal Palace, et dont on ne peut pas réellement tirer de leçon de ce qu'il fait avec Atlanta,
oui,
on peut
États-Unis.
Se rapprocher que son passé de joueur. Mais entre le passé de joueur d'un joueur des années 90 en plus et le foot des années 2020, c'est trop différent. Je le condamne pas d'avance, évidemment. Après, sur
un petit
ce qu'il
peu,
doit
quand
faire.
Même.
Non.
Un petit peu.
Bon, et alors, un chouïa,
alors, si tu le condamnais, qu'est-ce que tu dirais de lui?
Non, mais vraiment, je comprends pas trop pourquoi c'est lui en partie. Parce que des grands joueurs, on en a eu, Van Basten aussi, qui a été, c'est pas pour autant que ça marche à chaque fois.
Bon, alors.
Donc il faut,
Rayon.
Mais t'es pas obligé de prendre un ancien grand joueur, t'as de très bons entraîneurs qui ont pas été des anciens grands joueurs. Mourinho a pas été un grand joueur, c'était un super coach.
Non, mais alors, voilà. Aux Pays-Bas,
Aux Pays-Bas, mais t'en as plein des entraîneurs qui sont bons, forcément des anciens joueurs, ou un ancien joueur qui a été, mais c'est pas forcément.
Peut-être que le travail de sélectionneur est très différent.
Non, mais c'est ça. Mais le travail de sélectionneur, il est très différent. Après, sur la génération en place, effectivement, c'est un peu mieux que ce qu'on a vu sur les 5-6 dernières années. Mais il y a quand même un énorme travail pour voir les Pays-Bas revenir au très haut niveau.
Hervé.
Moi, je serais dans l'entre-deux, hein, parce que bon, c'est vrai que d'un côté.
C'est parce que vous êtes face à eux, vous faites l'arbitre.
Oui, c'est pour ça, certainement. Non, parce que je m'interroge, évidemment, parce qu'on voit son CV d'entraîneur, mais c'est deux rôles très différents. Et lui, il a quand même une image immense aux Pays-Bas. Faut pas oublier qu'il est de bord. C'est quelqu'un qui a gagné avec les Pays-Bas.
C'est encore main des sélections pendant longtemps.
Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment une image très, très, très importante. Donc, quand vous êtes sélectionneur, c'est un autre rôle. Il faut arriver à performer avec logiquement les meilleurs joueurs du pays, hein, qui jouent d'ailleurs pas nécessairement au pays.
Votre temps, donc c'est juste les observer.
Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas des séances d'entraînement hyper pointues. C'est d'une certaine manière pointue, mais surtout aussi une manière de pouvoir gérer mentalement, humainement ces hommes-là. Et peut-être que lui, là, il a ces ressources-là. Alors tu dis, c'est du copinage. Pas seulement. C'est-à-dire que les gars le connaissent. Je pense pas qu'ils auraient pris le premier peintre venu.
Entre dire prendre le premier peintre venu et dire je trouve pas ça logique qu'il soit là, il y a un écart. J'ai pas dit que c'était un peintre. Je le sais que c'est un très grand joueur. Mais ce que je te dis, c'est que dans ces fédérations-là et à ce poste-là, c'est très souvent du relationnel, du copinage. Parce que sur la carrière d'entraîneur, carrière d'entraîneur, Hervé, tu le vois prendre une sélection qui a besoin de retrouver rapidement le tour niveau.
Peut-être qu'avec l'Ajax, il a su jouer avec des jeunes. Là, ce qu'on lui demande aujourd'hui dans cette équipe des Pays-Bas, c'est de jouer avec des jeunes.
Mais ils sont
c'est
pas si jeunes que ça. Ils sont pas si jeunes que ça.
La grande différence. Enfin, il y a beaucoup de joueurs assez jeunes quand même. Oh. Mais la grande différence, quand vous prenez Crystal Palace, où parfois vous tombez dans un piège, l'Inter à l'époque. Oui, et puis après, il s'est retrouvé complètement broyé par le système. C'est-à-dire que vous l'auriez mis à peu près n'importe qui, c'était pareil. La phrase de Mourinho est drôle, mais pourquoi? Parce qu'il s'était permis de le critiquer, parce que Franck de Boer, il est un peu comme pas mal de joueurs hollandais, ils sont assez sur deux. Donc peut-être qu'il avait donné le son à Mourinho. Et ça, évidemment, à un moment, vous avez le retour de bâton. Mais d'un autre côté, moi, j'attends de voir ce que ça peut donner. On peut quand même porter crédit des choix récents. Coman, c'était un bon choix. Maintenant, on va voir ce que ça va donner.
Mais pour revenir, attention, moi, je ne fais pas un chèque en blanc à Franck de Boer. Évidemment, j'ai bien vu les échecs qu'il a eu en club. Moi, ça m'a refroidi. Donc, une fois de plus, je reste un peu mitigé. Après, il y a aussi, il y a le copinage, mais il y a aussi les médias. Et Franck de Boer fait partie des très bons consultants de la télé néerlandaise. Et ça, c'est important. La culture foot, le savoir expliquer, savoir raconter, ça rapproche aussi. Donc on lui donne aussi cette compétence. Et sinon, enfin, pour finir, tous les autres, on les a essayés.
Essayé tous les autres avec la tripotée de grands joueurs que t'as eu aux Pays-Bas. T'as pas essayé tout le monde, chéri.
Mais après, c'est qui les autres? Gullit, il s'est craché.
Mais attention,
il a travaillé quand même avec l'entraîneur en 2010, exactement quand les Pays-Bas, Marvik.
Bert van Nijmegen, c'est ça. Il y a une proximité
quand
aussi.
Quand ils étaient finalistes quand même de la Coupe du Monde
c'est pour ça que je vous dis que c'est du copinage.
Les nouveaux
c'est des gens de réseau.
Ils sont récents.
C'est des choix de réseau, tout ça.
Il a
quoi comme résultat comme entraîneur? Il a eu quoi? Excusez-moi, je m'interroge.
Avec l'Ajax, il a eu des résultats.
Et il est adjoint d'une sélection qui est finaliste en Coupe du Monde.
Mais c'était pas lui l'entraîneur principal, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous prenez une équipe qui participe plus à la Coupe du Monde, qui participe plus à l'Euro, dont on dit qu'il y a une génération qui arrive, mais qui est pas si jeune que ça, et qui est pas si forte que ça. Je suis d'accord. Donc, ce que je te dis, c'est que t'as besoin aussi d'avoir un entraîneur peut-être un peu plus costaud, ce qui était Coman. Je trouve que Coman a plus de légitimité. Mais il avait plus de légitimité que De Boer, qui finalement, jusqu'à présent, a fait toute sa carrière d'entraîneur sur son nom, et c'est un très grand nom. C'est certainement un très grand consultant. Mais sur les résultats eux-mêmes,
c'est le problème.
C'est
le problème entre être très bon consultant et très bon entraîneur. C'est une chose différente. D'ailleurs, Mourinho, c'est Pétous, parce qu'il s'était chopé Neville aussi, comme ça, quand il était parti à Valence. Il n'avait pas un résultat. Il dit il est meilleur consultant qu'entraîneur. Et effectivement, c'est pas le même métier.
Chérif, moi, j'aurais une question. C'est sur cette équipe, quand même. On se souvient, elle était finaliste de la Coupe du Monde en 2010. Elle était troisième de la Coupe du Monde en 2014. Ouais. Et puis, depuis, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que doit refaire, reconstruire Franck de Boer?
C'est d'abord avoir un groupe de qualité, parce que cette génération 2010-2014, elle est exceptionnelle. C'est des joueurs qui jouent.
C'est Robben, c'est Snyder.
Qui jouent dans les meilleurs clubs et qui gagnent la Ligue des Champions. C'est plus le cas la génération actuelle. Comme on le dit, il y a un impératif, c'est dans la continuité des compétitions. Il y a deux trous énormes dans le CD. Trois trous même avec l'Euro 2016. Ça aide pas pour avoir des sélections, pour avoir une continuité groupe, une complémentarité. Il y a une sorte de défi. Il y a une génération qui monte, elle est intéressante.
Alors, c'est qui ces jeunes? On dit Franck de Jong qui est, au Barça.
Il y a Van de Beek aussi. Après, chez les jeunes, il y a le petit Mohamed Yataren qu'il faut suivre de près.
Il y a Dest, tout ça.
Leroy Fer aussi qui est fort. Il y en a quelques-uns. Lui, il est un peu moins jeune, mais Bergwijn qui fait des belles choses aussi quand il joue. Bon, mais on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas. C'est des beaux joueurs, les Pays-Bas, évidemment.
Je voulais qu'on sache sur qui il va s'appuyer. C'est ça.
Les cadres, on les connaît, c'est Depay, c'est Van de Beek,
Van Dijk, Silesen, qui fait un peu
Atteboer, De Roon de l'Atalanta.
Eh ben, on l'observera bientôt en Ligue des Nations, cette équipe des Pays-Bas qui rencontrera la Bosnie-Herzégovine
et l'Italie.
Exactement.
Là, on va voir.
Autre match.
Premier match.
À demain pour le Café des Sports.